Tout au long de ce cycle, nous avons souhaité interroger les fragilités de nos démocraties contemporaines en croisant les regards de l'histoire, de la philosophie et des sciences sociales. Avec Götz Ali et Johann Chapoutot, nous avons exploré les conditions historiques qui rendent possibles les basculements autoritaires. Avec Axel Honneth, nous avons réfléchi aux conditions sociales et morales de la cohésion démocratique et au rôle de la reconnaissance dans le maintien du lien civique. Et pour clore ce cycle, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Corinne Peluchon, dont les travaux comptent parmi les réflexions philosophiques les plus importantes sur le renouvellement de la démocratie, de l'éthique et de notre rapport aux autres. Sa présence ce soir est d'autant plus réjouissante que son ouvrage « La démocratie sans emprise » vient tout juste de paraître en traduction allemande chez Beck sous un titre dont on peut discuter tout à l'heure, « Die Macht des Weiblichen », donc question de traduction qui se pose. Cette publication témoigne des liens intellectuels très étroits que Corinne Peluchon entretient depuis longtemps avec l'Allemagne. Son œuvre nourrit depuis de nombreuses années un dialogue particulièrement fécond entre les traditions philosophiques françaises et allemandes, incarnant ainsi de la plus belle manière cette circulation des idées que la maison Heinrich Heine, dans l'esprit de Heinrich Heine, s'attache à promouvoir. Dans « La démocratie sans emprise », Corinne Peluchon propose une analyse éclairante des ressorts contemporains de l'autoritarisme qui entre particulièrement en résonance avec l'ensemble des questions qui ont traversé notre cycle. Face aux nouvelles formes d'emprise et à la banalisation des discours autoritaires, comment renforcer les ressources démocratiques de nos sociétés? Quelles dispositions individuelles et collectives permettent de résister à la logique de la peur, du repli et de la désignation de l'autre comme menace? Et comment réinventer une démocratie qui ne se limite pas à ses institutions, mais repose aussi sur une certaine manière d'habiter le monde avec les autres? Ce sont par ailleurs les questions qui sont au centre du projet même du campus de la cité universitaire sur lequel nous nous trouvons ce soir. C'est donc autour de ces questions que s'engagera la conversation de ce soir. Je vous remercie d'être ce soir ici, chaleureusement, de votre présence. Je souhaite la plus cordiale bienvenue à Corinne Peluchon. Nous allons donc tout d'abord donner la parole à Corinne qui va faire un exposé de son travail. Et ensuite, on va ouvrir cette discussion avec vous pour creuser davantage ces questions. Et déjà maintenant, je vous remercie de venir ici à la Maison Heinrich Heine pour terminer cette année et cette fin de saison qui se terminera ce dimanche avec un concert. Donc, merci beaucoup d'être là et je donne la parole à Corinne.
Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais donc vous présenter les grandes lignes de ce livre. En fait, l'idée principale, c'est que la démocratie ne repose pas seulement sur des institutions, mais sur le désir de vivre ensemble, et c'est celui-ci qui est particulièrement érodé. Donc, l'idée, c'est que la démocratie a besoin d'amour. Alors, ce n'est pas un sentiment, hein, c'est vraiment... Je vais essayer donc à la fois de porter un diagnostic sur ce qui nous rend aujourd'hui vulnérables aux solutions autoritaires en réfléchissant sur l'articulation entre les structures socio-économiques et la subjectivité. Hein, avec, j'expliquerai pourquoi les conditions socio-économiques aujourd'hui, dans la modernité tardive, à partir des années 90 par exemple, eh bien, génèrent un stress énorme sur les individus, conduit à une désubjectivation qui peut être une menace, qui érode le lien social, mais qui aussi constitue une fragilité psychique qui peut être exploitée. Ce sera donc les premières lignes. Je porterai un diagnostic sur cette vulnérabilité spécifique des personnes au discours d'extrême droite et pas seulement à l'autoritarisme mais au discours d'extrême droite. J'essaierai de distinguer la spécificité de l'adhésion, de l'intrigue qui se joue entre une partie de la population et des leaders d'extrême droite qui appellent à des discours violents. Et puis dans une deuxième partie, dans ce deuxième mouvement de cette conférence, j'insisterai sur, sinon les remèdes, du moins les perspectives. Pourquoi, comment rendre la démocratie désirable, mais également quelles ressources avons-nous en nous pour penser et vivre la démocratie, qu'est-ce que ça signifie finalement, quels sont les principes sur lesquels elle repose, et pourquoi, justement, comment rendre désirable un projet écologique qui répond aux défis actuels, lesquels également sont source d'angoisse et nous obligent à acquérir, et c'est l'idée centrale, une certaine maturité permettant de traverser la négativité, d'accepter un certain nombre d'émotions négatives. Et justement, vous verrez que le fil rouge de ce travail, c'est quelle éducation, quelle Erziehung, quelle éducation, quelle maturité serait nécessaire aujourd'hui, entendu au sens où peut-être la réponse qu'avait donnée Kant, hein, qu'est-ce que les lumières, penser par soi-même, évidemment est toujours importante, pense par toi-même, et le courage de réfléchir, d'avoir une activité critique, mais il y a des obstacles à cela, et surtout, peut-être, il faut aussi ajouter à la réflexion critique la conscience des ressorts inconscients de nos comportements destructeurs et la capacité à dépasser des émotions négatives qui sont liées au cataclysme que nous vivons, le réchauffement climatique est un de ces cataclysmes. Alors, donc, j'ai 4 points. Mais avec ces 2 mouvements, les 2 premiers un peu diagnostic et les 2 derniers remèdes, je vais parler d'une psychanalyse à l'envers, reprenant les propos de grands penseurs de l'école de Francfort, en parlant de la stratégie qu'ils ont analysée des leaders d'extrême droite quand ils étaient aux États-Unis, où il y avait leaders d'extrême droite qui avaient des propos antisémites. Qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là suscitaient une telle adhésion, une sorte de fascination hypnotique. Je parlerai du diagnostic que moi je fais, ce que j'ajoute, la notion d'emprise, hein, peut-être en allemand Bemächtigung, hein, quelle intrigue se noue entre les leaders d'extrême droite et la population. Puis nous passerons justement à la démocratie. Qu'est-ce que c'est ? Quelle énergie ? De quelle énergie se nourrit-elle et pourquoi la démocratie est la réponse à notre condition engendrée, pourquoi la démocratie écologique est la réponse à notre condition mortelle et qu'est-ce que ça voudrait dire. Et à cette occasion, je m'expliquerai sur cette formule qui peut donner lieu à des contresens, à savoir la puissance du féminin, qui n'est pas un cliché essentialiste, mais je m'expliquerai sur ce que c'est que la puissance quand ce n'est pas une domination ni la force. Alors, premier point, donc, c'est vrai qu'il y a un livre que je trouve majeur, vous pouvez peut-être l'avez voulu, c'est Prophets of Deceit, hein, Prophètes du mensonge, de Léo Leventhal et Norbert Guterman, qui sont donc des proches d'Adorno, donc des pères fondateurs de cette école de Francfort qui a un peu plus de 100 ans, et qui analyse précisément l'impact des transformations socio-économiques majeures du XXe siècle sur les individus, et on analyse les conséquences politiques en particulier. Et quand ils sont réfugiés aux États-Unis dans les années 40, ils vont lire, relire, analyser les discours des leaders nationalistes, il y en a beaucoup, et essayer de voir les invariants pouvant caractériser la stratégie des leaders d'extrême droite qui sont antisémites et qui suscitent une adhésion importante. Quels sont les moteurs de cette adhésion? Ils vont parler, et c'est tout à fait intéressant, d'une psychanalyse à l'envers. Alors avant de parler de cela, je voudrais dire que ces auteurs, comme Adorno lui-même, un des pères fondateurs de la théorie critique ou de l'école de Francfort, reprennent l'expression de malaise social qu'on trouve chez Freud en 1930, Unbehagen in der Kultur. Le malaise social, c'est quoi? C'est un sentiment de mal-être diffus et constant, comme une maladie chronique, qui vient d'un ensemble de causes multiples liées aux transformations socio-économiques. Et ils analysent, ces auteurs, les effets de ce qu'ils appellent le capitalisme, mais c'est-à-dire les innovations technologiques, l'impact de ces innovations technologiques sur le travail, le déclin de la structure familiale, les grandes transformations. Et aujourd'hui, on ajouterait, avec la 4e génération de la théorie critique, on ajouterait la question de l'accélération, hein, l'augmentation de la production, l'augmentation des flux, des échanges, le rythme de nos vies où, en même espace de temps, il y a énormément d'événements. Tout cela génère un stress énorme sur les individus, produisant une sorte d'aliénation, un sentiment d'étrangeté à soi et au monde. Le monde qui paraît muet, qui nous échappe, et les individus se sentent impuissants, remplaçables et insignifiants. Et cette désubjectivation, ce sentiment d'impuissance et d'être insignifiant, d'être dans un monde qui semble muet, eh bien, c'est vraiment ça, ce malaise social. Vous voyez, le mot est assez vague, mais il exprime ce mal-être un peu constant qui a plusieurs causes, lesquelles demanderaient justement un diagnostic précis pour pouvoir répondre à chacune d'entre elles, faire des réformes. Mais justement, ce sentiment de mal-être ou de malaise éprouvé par les individus et diffus dans la société rend les personnes justement tout à fait manipulables. Et ce que écrivent Löwenthal et Guterman, c'est que les prophètes du mensonge sont ceux qui ne créent pas le malaise social, mais qui vont l'attiser, détournant l'attention des personnes de la recherche des causes objectives des problèmes vers la désignation de coupables, lesquels incarnent un déclassement social dont eux-mêmes ont peur et à l'égard desquels ils vont décharger leur agressivité, se soulageant provisoirement. Donc, vous voyez cette lecture qui emprunte à la fois au marxisme et au freudisme, mais qui permet d'éclairer la fragilité psychique des individus dans ce XXe siècle, avec ces technologies, avec cette transformation de la famille, avec l'effondrement de certains repères. Et ils disent, les leaders d'extrême droite, dont ils analysent les discours, soulignant le fait que leurs discours au niveau économique sont un petit peu pauvres, contradictoires, mais qu'en fait, il faut voir au-delà du contenu manifeste, le contenu latent. Ça s'adresse à l'inconscient. Ça s'adresse à, finalement, une fragilité psychique. Et ils disent, eh bien, ils pratiquent une psychanalyse à l'envers. La psychanalyse, c'est mettre des mots, M-O-T-S, sur nos souffrances, sur nos mots, M-A-U-X. Eh bien là, au contraire, au lieu d'inviter les personnes à prendre conscience des problèmes pour essayer de les résoudre, eh bien, on pousse à les refouler et à donc décharger son agressivité vers des cibles qui peuvent être fragiles, donc qui incarnent ce déclassement dont ils ont peur, ou au contraire, être représentées des élites qui profiteraient du système, etc. Donc cette psychanalyse à l'envers, cette énergie est dévoyée et induit un rapport paranoïaque au monde. Ce qui fait que les personnes perdent leur jugement et peuvent aussi justement être conduites à avoir une certaine agressivité. C'est vraiment aussi quelque chose qu'on trouve chez Adorno, c'est-à-dire le refoulement de son sentiment d'impuissance qui est lié aussi au fait que la civilisation demande beaucoup, les critères de performance, de réussite sont quasiment impossibles à atteindre. Et cette culpabilité que chacun éprouve est refoulée et cela génère ça rend vulnérable justement à des discours qui non seulement nous invitent à commuer notre sentiment d'impuissance en toute puissance ou orgueil national, mais qui aussi vont désigner des coupables qui permettent de croire qu'on a résolu tous les problèmes puisque c'est de la faute d'un tel ou d'une telle. Donc cette psychanalyse à l'envers, c'est une manière d'exploiter le malaise et loin d'être quelque chose que l'on peut combattre par des arguments, s'adressant à l'inconscient, c'est très puissant. Et ces auteurs souligneront également le lien affectif que les leaders d'extrême droite nouent avec une partie de la population en disant « on est comme vous », c'est un peu le grand petit homme. Je ne sais pas si vous avez lu le texte « Écoute, petit homme » de William Reich, un psychiatre qui est recevé dans son cabinet des personnes et il analyse lui aussi cela. Je rappelle également que Adorno, dans les années 50, a fait de nombreuses enquêtes empiriques pour comprendre le motif de l'adhésion au discours antisémite et il a bien montré avec ses collaborateurs que ce n'était pas le niveau socio-économique, le pouvoir d'achat, ni le niveau culturel qui expliquait cela, cette adhésion, mais plutôt un sentiment de perte du monde, un sentiment d'étrangeté, de mutilation, le mot qu'il emploie. Un sentiment d'avoir une vie mutilée et de ne pas se retrouver. Et ça, c'est très intéressant. Donc, moi, je vais ajouter quelque chose à ce diagnostic qui me semble néanmoins très actuel. C'est mon deuxième point. Mais avant de l'aborder, je voudrais quand même faire une remarque sur la distinction entre l'autoritarisme classique, on va dire, et ce qui se joue de spécifique dans l'adhésion à un discours qui appelle à la haine, qui désigne des personnes à chasser, des proies à chasser, comme disent justement ces auteurs. Bon, les personnes qui sont dans l'autoritarisme, on appelle ça les autocrates, ne sont pas tous donc des fascistes. Hein. On peut employer aujourd'hui, je crois, ce terme, on peut le discuter, mais bon. Mais il y a effectivement, pendant longtemps, et là aussi il y a des politistes des États-Unis, Levitsky et Ziblatt, qui dans « How Democracy Die », un livre que traduit en allemand, en français, expliquaient que pendant longtemps, notamment le Parti républicain américain, jouait un rôle de filtre, de gatekeeper et de filtrage, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des personnalités non seulement autocrates, mais également ayant des opinions antisémites, racistes, etc., et qui avaient un certain succès, mais le parti, en l'occurrence républicain, ne les choisissait pas pour représenter donc ce parti aux élections. C'est-à-dire qu'il filtrait et ces personnes-là se retrouvaient, restaient outsiders. Et aujourd'hui, évidemment, il y a un tabou à lever qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, puisqu'on a tendance dans les études à faire penser que les structures socio-économiques, les transformations socio-économiques suffiront à endiguer cela, ces problèmes. Eh bien, je crois qu'il y a un tabou qui est aussi que la démocratie suppose qu'on accepte des règles du jeu et même des dispositions morales de la part non seulement des représentants, mais également, on le verra, de nous-mêmes. Elle est exigeante. Et Ziblensky, Ledvinsky et Ziblatt ont le mérite de donner des critères qui permettent de repérer en amont des élections les personnes qui seraient incapables d'exercer le pouvoir dans une démocratie sans en abuser. Mais ça ne suffit pas, me semble-t-il, parce qu'ils font comme s'il y avait une masse de personnes autocrates qu'il fallait chasser, sans faire la distinction entre des autocrates qui, certes, discuteront le scrutin, traiteront de tous les noms leurs adversaires, les transformeront en ennemis, etc., ne respecteront pas les règles du jeu de la démocratie, laquelle est l'institution, implique l'institution a posteriori du bien commun, donc suppose l'encadrement de la conflictualité, donc suppose que le bien commun n'est pas dans le ciel des idées, n'appartient pas à quelqu'un, mais doit être débattu. Et en acceptant les compromis. Donc ça suppose quand même une qualité de tolérance, de l'écoute, etc., hein, des qualités. Mais ça, c'est évidemment fondamental, mais ils ne font pas la distinction entre l'autoritarisme et le fascisme, qui n'est pas seulement un autoritarisme, qui n'est pas seulement l'exercice de pouvoir sans concession et de manière autoritaire et voire violent, mais qui impose une idéologie qui ne divise pas seulement la société entre nous et vous, non, qui aussi a un discours de haine et qui en plus ne s'appuie pas sur une doctrine précise. Et on va le voir dans un instant, quand on regarde les discours d'extrême droite, ils font flèche de tout bois. Il n'y a pas ce corpus marxiste qu'il y a, par exemple, chez les autocrates de gauche. Hein. Je ne les excuse pas, mais il y a dans le discours d'extrême droite, il y a une manière de recycler un peu tout, de rendre folle la raison, de tordre les symboles. Hein. L'extrême droite en France, récemment, dans le nord de la France, utilisait Jaurès. Hein. Faut quand même le faire. Hein. Donc il y a une manière, vous voyez, particulière, et ça ne s'assoit pas sur une doctrine
profonde, précise. Au contraire, hein, dans un pays qui sera religieux, où il y a une religiosité importante, on épousera cela. Dans un pays laïque comme le nôtre, on jouera la laïcité pour désigner une certaine communauté comme étant des repoussoirs. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est mon deuxième point. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se joue en particulier aujourd'hui entre une partie de la population et ces leaders d'extrême droite? Moi, je parle d'emprise. Alors, c'est un terme qui a du sens dans le couple, dans la famille, qui est une soudure narcissique, qui est un dévoiement du lien. Il y a un lien, mais il est dévoyé. Et c'est pour moi justement une soudure narcissique au sens où c'est précisément en raison de la fragilité des êtres aujourd'hui, en raison du sentiment d'impuissance, du sentiment de perte de relation spontanée au monde, disait aussi Hannah Arendt, ce qu'elle appelait la désolation, hein, sentiment de ne pas avoir sa place ou de ne pas la trouver et d'être dans un monde qui vous échappe, eh bien, cela, quand justement on ne le traverse pas, hein, eh bien, quand on en a peur, quand on en ressent la culpabilité et qu'on la refoule, ça génère une agressivité et ça peut précisément rendre très vulnérable au discours exaltant. Donc, l'orgueil national, la fierté, et donc c'est amené dans une relation qui commence par la séduction, par la proximité affective, mais qui est de la domination. Et Racamier, qui en 1986 va introduire des notions qui vont pas être tellement appréciées à l'époque, notamment celle de perversion narcissique, mais qui me semble-t-il amène quelque chose d'important pour comprendre cette intrigue qui se noue et qui résiste à tous les scandales, la corruption, la désinhibition. On a l'impression que les leaders d'extrême droite, plus ils sont dans la désinhibition, plus ça marche, ils peuvent faire toute la corruption du monde. Ça fonctionne quand même. La raison est impuissante à dissoudre ce lien. Alors, c'est quoi dans ce lien ? Racamier, lui, il parle de... Freud, Merleau-Ponty disent que toute blessure narcissique, quand elle n'est pas travaillée, ça conduit à l'agressivité. D'accord. Qu'est-ce qu'ajoute la notion de perversion narcissique ? C'est l'idée, c'est une manière, une façon organisée, dit-il, de se défendre de toutes les douleurs, de toutes les contradictions qu'on a, et de les expulser pour les faire couver ailleurs. Autrement dit, il y a des personnes qui, justement, ont besoin d'écraser les autres pour... non seulement exister, mais pour oublier qu'elles ne sont qu'elles-mêmes, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein, c'est-à-dire pour vraiment... vous voyez, ce qui est très intéressant, hein, c'est pas de la psychologie seulement sociale. Le cœur de tout cela, et c'est pour ça que je viendrai tout à l'heure à l'écologie, c'est que finalement, la maturité nécessaire pour comprendre les ressorts inconscients de nos comportements destructeurs et de l'adhésion à des discours... qui induisent un rapport paranoïaque au monde, on voit des ennemis partout, faire la guerre, etc., eh bien ça, c'est lié à notre incapacité à traverser la négativité, à reconnaître nos limites, à reconnaître nos contradictions. Et on fait payer la société ou les autres pour cela. Donc, et c'est ça que je trouve très intéressant. Et alors moi, dans ce livre, j'ai dressé une sorte de portrait, j'ai fait une sorte de description de cette relation dans les domaines où on les connaît, hein, dans le couple ou dans le travail, et pour en parler en politique. Parce qu'il y a aussi cette idée que Racamier, à un moment, parle de la stratégie du coucou. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas venir, les leaders qui vont détruire un pays et l'amener à sa perte. Ce ne sont pas de grands philosophes, ce ne sont pas de personnes forcément charismatiques ou s'étant distinguées par des créations. Au contraire, ils n'ont pas de créativité. Ils prennent quelque chose qui existe déjà et ils vont le dévoyer. Je ne citerai pas quelqu'un qui a conduit une maison d'édition célèbre à avoir... Mais voyez, on ne crée pas, mais on prend ce qui existe pour le dévoyer, le détruire. Hein. Donc il y a vraiment... Et donc là, c'est vraiment aussi cette stratégie que j'ai essayé de peindre, parce que pour moi, évidemment, il ne s'agit pas de dire... qu'il y a des grands méchants qui vont perdre un pays. Non, il s'agit de montrer comment on peut perdre la démocratie, comment ça peut être fait petit à petit, et comment on le voit pas si on n'ouvre pas les yeux sur les ressorts inconscients de nos comportements destructeurs et sur notre fragilité, sur nos blessures narcissiques, si on les traverse pas, hein. Si justement, et c'est alors là, je m'appuie sur ces auteurs, mais également sur aussi ce que j'ai pu connaître, hein, dans son travail. On a parfois vu une institution qui existait depuis 30 ans et en quelques mois détruire, hein. Et c'est pas seulement en raison de personnes, c'est aussi toute une intrigue, vous voyez, quelque chose, une soudure narcissique, quelque chose qui fait que on s'abandonne à des personnes qui vont perdre un pays. Mais ça commence par justement tout ce qui détruit, hein, le lien social, etc. Donc, parce que c'est vrai que l'emprise, Bemächtigung, hein, c'est le dévoiement, c'est la réponse pathologique à une demande de reconnaissance et de considération. Et si on fait un sondage quelque part, on verra bien que les personnes souffrent surtout de ne pas être considérées, pas être entendues, de ne pas avoir de place dans le monde. Et ce monde, effectivement, est très complexe, hein, je le disais tout à l'heure. Mais l'idée, peut-être, c'est d'être conscient des ressorts inconscients de nos comportements et de bien caractériser cette stratégie en trois temps: séduction, proximité affective, domination, manipulation, hein, et finalement perte, ça conduit à de la violence, hein. Pourquoi l'extrême droite a-t-elle besoin de violence? Parce que justement il n'y a pas derrière une pensée structurée, un projet de société écologique ou économique, mais il y a une nécessité d'avoir le pouvoir, d'amener la population à se diviser, et c'est pour ça que ça, en général, ça se nourrit de guerre et de guerre. Donc la réflexion, et je vais passer au mouvement plus lié aux perspectives, hein, remède non, mais perspectives. La démocratie, j'ai dit tout à l'heure, donc c'est quoi? C'est un régime pluraliste qui implique l'institution progressive du bien commun grâce à un encadrement de la conflictualité. Mais disant cela, déjà, ça veut dire qu'elle est liée à l'acceptation de l'incertitude, de quelque chose qui n'est pas d'emblée figé, d'emblée acquis. Elle est liée aux médiations multiples, hein, qui permettent de délibérer, ensuite de décider. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus, comment dire, pas laborieux, mais lent, hein. Et de fait, il est vrai que l'accélération aujourd'hui, les innovations technologiques et économiques créent une désynchronisation entre le rythme frénétique de ces innovations et le temps lent de la délibération. Mais moi, j'insisterai surtout sur le fait que la démocratie, c'est la réponse à notre condition engendrée. Hannah Arendt a beaucoup insisté là-dessus dans « Conditions de l'homme moderne », en particulier, mais pas seulement. Elle dit que la naissance qui est le fait d'être né, c'est-à-dire d'être accueilli dans un monde plus vieux, plus vaste que soi, qu'elle appelle le monde commun, qui fait des générations passées, présentes, futures, du patrimoine culturel, technologique, on peut ajouter naturel, eh bien, la naissance, c'est justement ce qui est la possibilité de renouveler le monde. C'est aussi l'idée que chaque personne a une singularité, est unique, et que la réponse à cette condition engendrée, c'est la démocratie, dont l'essence est liée au pluralisme, au fait que l'humanité est une, mais elle est diverse. Hein, comme les langues, hein, il y a cette unité de l'humanité, mais elle est diverse, elle se dit à chaque fois dans des êtres singuliers, alors que le totalitarisme est toujours la tentation ou la tentative pour faire en sorte que l'humanité soit une masse et qu'on écrase les visages, qu'on réduise l'individu sous une totalité, sous une race, sous une concept comme ça, une totalité, disait Lévinas. Donc, il y a vraiment l'idée, et évidemment, c'est très exigeant, parce que ça oblige, être né dans un monde plus vieux, plus vaste que soi, nous oblige à au moins ne pas le détruire, mais ça oblige ce monde à nous offrir une éducation nous permettant de nous inscrire dans ce monde qui ne nous connaît pas et que nous ne connaissons pas, mais qui aussi, cette éducation, nous permette de créer des œuvres ou des actes dignes de durée. Donc il y a vraiment la démocratie souvent attaquée pour ce qui fait sa valeur propre, à savoir le fait que le bien commun n'est pas défini une fois pour toutes et a priori, qu'elle est liée à cet encadrement de la conflictualité, une recherche d'accord sur fond de désaccord, donc de construction d'un consensus toujours un peu fragile, quelle est la réponse à la pluralité, donc c'est différer ensemble, c'est être capable de différer ensemble, de reconnaître l'altérité. Et elle a cette phrase extraordinaire, Hannah Arendt, après la publication des trois volumes de l'origine du totalitarisme, où elle dit, je peux enfin aimer ce monde, je vais faire un livre qui s'appellera Amor Mundi, elle ne l'a pas fait, mais en guise de conclusion à ces trois tomes, elle dit, la modernité a le choix entre la gratitude et le ressentiment. Le ressentiment est toujours lié au ressentiment à l'égard de notre condition, notamment engendrée, c'est toujours lié à cette volonté de mettre l'humanité comme une seule masse et de refuser la différence, et la gratitude est toujours gratitude à l'égard du donné, au-delà même de cette pluralité du politique qui répond à la naissance, au fait que chacun est unique, il y a cette gratitude à l'égard du donné, c'est-à-dire à l'égard d'un monde qui accueille la nouveauté, qui fait de la place à l'imprévisible, dont le visage est le nouveau-né, puisqu'il est justement cette promesse de renouvellement du monde que je n'attendais pas. Et alors justement, c'est très intéressant, parce que dans un monde comme le nôtre, qui est soumis à des défis majeurs, où nous avons du mal à configurer le futur, ou alors on a l'impression que demain sera pire qu'aujourd'hui, c'est parce que le réchauffement climatique, qui est la possibilité de notre impossibilité, menace notre survie, celle de l'humanité, qui souligne la précarité de notre civilisation et les erreurs, en tout cas d'un modèle de développement fondé sur l'abondance ou la négation des limites planétaires. Tout ça, plus les guerres aujourd'hui, tout ça, effectivement, c'est trop grand pour nous et nous fait créer en nous un stress constant, une peur de l'avenir, une difficulté à configurer le futur. Et évidemment, c'est d'où la tentation de s'accrocher à des idéologies, d'être dans la polarisation, de céder à tout ce qui est contraire aux dispositions morales nécessaires à la démocratie. Mais c'est tout à fait intéressant de rappeler les ressources que nous avons dans notre condition. Et avant de parler de la démocratie, du projet écologique, qui pourrait, comment le rendre désirable aujourd'hui, puisque quand même beaucoup s'accordent à reconnaître qu'il y a un défi majeur et que c'est un projet qui a du sens, mais il ne déclenche pas une énergie positive, il n'embarque pas la population. L'énergie aujourd'hui est plutôt du côté du ressentiment et de la fermeture des discours nationaux, voire nationalistes. Alors, bon, je voulais donc, avant d'amener cette idée-là, puisque l'écologie est la réponse, selon moi, vous allez voir, à notre condition mortelle et à notre vulnérabilité, je voudrais insister sur ce terme, la puissance du féminin, et dire ce qu'il n'est pas. Eh bien, la puissance du féminin, pourquoi c'était le sous-titre, hein, c'était pas le titre, l'éditeur, effectivement, allemand l'a mis en premier. Alors, le féminin, c'est pas la féminité, hein, déjà, c'est pas une sorte d'idéal forgé, par une culture, voire patriarcale, ce qui serait féminin, ce qui serait même. C'est le féminin, c'est pas non plus donc un ensemble de clichés essentialistes liés à une image qu'on se ferait de la femme ou au rôle assigné aux femmes. Mais comme moi je suis écoféministe, J'ai employé, j'assume la notion de féminin. Qu'est-ce que l'écoféminisme? L'écoféminisme, c'est un courant du féminisme très différent quand même du féministe, tout en étant quand même dans le prolongement. Hein. Le féminisme classique, si je puis dire, s'interrogeait à juste titre sur l'égalité homme-femme et sur le fait que, loin d'être neutre, nos institutions privilégiaient, en tout cas... l'égalité, elle était sur le papier, quoi. Elle n'était pas, par exemple, la double journée ou triple des femmes n'était pas prise en compte par le grand Rawls dans sa théorie de la justice comme équité. Ça marche sur le papier, mais il faut tenir compte des conditions socio-économiques des femmes et voir parfois des dominations induites, des préférences induites, qui fait que, comme beaucoup de minorités, elles se reconnaissaient pas le droit d'accéder à tous les postes. Bon. Donc c'était quand même une quête pour une égalité réelle, pour parler comme Marx. Alors l'écoféminisme, pareil, mais ajoute, notamment dans sa naissance, dans des mouvements sociaux, grassroots, c'est l'idée qu'on ne va pas mettre de côté l'expérience des femmes qui souvent s'est socialement construite. C'est arbitraire, mais c'est comme ça, qui souvent sont liés aux soins, à l'alimentation, aux enfants, etc. On ne va pas le mettre de côté, comme si ça n'existait pas. On va en faire le point de départ, même si ça a été assigné ou socialement construit, le point de départ d'une prise de conscience de ce qui ne va pas dans l'organisation politique. Et les écoféministes, ceux qui ont étudié ça, ils savent que, justement, c'est des femmes... Parfois, et souvent, assez pauvres dans les mouvements sociaux, en tout cas, avant qu'on parle des intellectuels, qui, justement, voyaient dans leur chair et en observant les maladies de leurs enfants que la pollution, tout ça, il n'y avait aucune réponse politique à ces problèmes, puisqu'il y avait cette séparation de la sphère privée domestique et de la sphère politique, et que la production et la reproduction étaient séparées, et justement, elles ont fait de leur situation sociale le point de départ d'une contestation des limites de libéralisme politique et économique à résoudre des problèmes de santé environnementale que dès les années 80 elles pointaient comme étant essentiels, et elles ont fait de cette situation le point de départ d'une réflexion sur le pouvoir, sur comment on partage le pouvoir, sur ce qu'est un pouvoir qui n'est pas une domination. Dans mon langage, une puissance potentia, qui n'est pas potestas, puisque chez Spinoza, il y a deux mots pour pouvoir, potestas, les instances hiérarchiques, et potentia, puissance d'agir, énergie vitale, désir de vivre ensemble. Ricoeur, reprenant cette distinction, dira que la démocratie vit de cette tension entre la potestas et la potentia, et que le pouvoir instituant, ou la potentia, la créativité des citoyens ne doit pas être étouffée par les instances hiérarchiques, et qu'il y a toujours une tension. Hein, parce qu'il faut évidemment une organisation, des instances hiérarchiques, mais d'emblée, très vite, elles veulent recouvrir l'énergie. Et en même temps, cette énergie doit être cultivée. Donc, la culture, l'éducation, la démocratie vit de quoi ? Elle ne vit pas seulement d'institutions, elle ne vit pas non plus seulement de dispositions morales isolées. Nos émotions aussi sont le reflet des structures socio-économiques sur la subjectivité. Mais elle suppose de cultiver les dispositions morales et de les lieux pour partager justement ce qu'on a à se dire. Et c'est sans cela, c'est une coquille vide. Et donc du coup... Et moi, j'appelle puissance du féminin, cette potentialité propre à chacun, homme-femme, mais qui dort ou qui est écrasée souvent par la compétition, par les logiques de domination qui régissent notre monde. La compétition, la production sans cesse, l'accélération qui fait qu'on n'a pas le temps d'avoir un rapport à soi, aux autres, au monde qui soit signifiant. Hein. Et donc, comment réveiller cette énergie positive qui est liée à justement le pari pour la vie. Et pourquoi je l'appelle féminin ? Ben, ça a quand même un rapport avec le féminisme, qui est l'histoire d'un effort constant, jamais acquis, pour faire entendre sa voix spécifique dans un monde qui était quand même structuré par l'oppression. Donc moi, ça m'intéresse les contradictions même, et les efforts et les ruses nécessaires de la part des femmes pour, dans des situations d'oppression, beaucoup de pays, et même chez nous, ça va un peu mieux, mais faire entendre quand même une voix différente et parier sur, justement, l'avenir, sur le vivant. Donc, et il y a cette réflexion, évidemment, et là je partage ça avec Camille Froidevaux-Métry, cette idée que, bien sûr, il y a une universalité de notre corporéité, hein, nous sommes tous lié au corps, limité dans notre liberté par la mort, par le corps, etc. Mais c'est vrai que les femmes sont souvent réduites au corps, en tout cas. Et puis, dans l'expérience même quotidienne, il y a cette passivité du corps, enfin, il y a ce malgré-soi au sens de Lévinas. Hein. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant, puisque pour moi, une des clés pour comprendre la domination, qui est toujours triple, des autres, de la nature à l'extérieur, animaux, écosystèmes, et de notre propre nature. Pour moi, la prédation à l'égard de la nature, la domination à l'égard des autres, s'enracine dans la répression de notre condition corporelle et vulnérable, et en particulier, on va le voir, mortelle. Et c'est mon dernier point. Pourquoi la finitude et l'écologie, c'est si lié, hein ? Pourquoi l'écologie est la réponse ? Une démocratie écologique serait la réponse à notre condition mortelle et vulnérable, mais pourquoi c'est difficile ? Pourquoi c'est pas le projet écologique a tant de mal aujourd'hui à se faire entendre ?